Nicolas, je vais prier pour toi. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les mots que tu as mis sur le cœur de Nicolas pour nous enseigner ce matin. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux, c'est toujours un privilège de pouvoir avoir ce temps dédié. C'est un peu une responsabilité aussi de ne pas dire de bêtises. Et d'être là devant vous, d'avoir préparé quelque chose dans l'espoir que ça puisse aussi résonner en vous tel que ça a pu le faire ces dernières semaines en moi. Les vacances ont démarré et vous le voyez dans cette salle. Il y a une chose qu'on fait à peu près tous si vous partez en vacances, c'est qu'on envoie des lettres, des cartes postales. Sur ces cartes postales, en général, on ne met pas forcément grand-chose dessus. C'est l'histoire de dire « il fait beau, on va à la plage, les enfants sont contents ». Voilà ce que nous, à peu près, on met sur nos cartes postales. Celui qui reçoit ça, c'est pas une mine d'informations, si vous voulez. Mais ce que ça dit en creux, en tout cas, j'espère, ça dit à la personne « on pense fort à toi, on t'aime ». J'ai même vu des vieilles, vieilles cartes postales où il y avait juste marqué en gros « bisous » dessus, rien d'autre. Et ça dit la même chose. On va lire ce matin la lettre aux Philippiens écrite par Paul. Et Paul aussi, il a écrit une carte postale d'été. Il a voulu dire à l'église de Philippe « Je vous aime ». Bon, si vous pensez qu'effectivement cette lettre a été retenue pour faire partie du canon biblique, il y a un peu plus de contenu que simplement nos cartes postales. Hein. On va essayer de voir ça ensemble. Mais dans le fond, son intention première, elle était là. Paul, c'est un apôtre. Alors, si vous n'êtes pas familier du vocabulaire biblique, un apôtre, c'est quelqu'un qui est mis à part pour annoncer l'évangile. Ça a été les 12 premiers disciples, mais Paul lui-même s'est décrit comme apôtre parce que mis à part pour annoncer l'évangile. C'est aussi, et c'est une chose importante dans notre contexte, c'est l'implanteur de l'église de Philippe. L'église de Philippe, c'est une église complètement païenne. N'a pas été issu d'un carcan de juifs qui se sont dit « maintenant qu'on croit en Christ, il faut qu'on monte une église ». Non, Paul est arrivé, il a construit, il a bâti cette église. Et au moment où Paul écrit cette lettre, il n'est plus à Philippe, sinon il n'écrirait pas une lettre, il leur dirait directement, il est à Rome et il est à Rome en prison. Paul, toujours dans le contexte, on sait qu'il a reçu un don, un soutien financier de la part de l'église de Philippe. Alors, je me dis, un soutien financier alors qu'il est en prison, a priori, c'est pas là qu'il va aller faire du shopping. Je me dis que finalement, ce don financier, il était non pas pour lui, mais pour le ministère qui était quand même à l'œuvre à Rome. Parce que j'imagine que des gens venaient lui parler et qu'il avait quand même ce témoignage et qu'il pouvait donner ces informations. Cette lettre, c'est une lettre qu'on aimerait bien recevoir, et maintenant que je vous l'ai bien mise en bouche, on va la lire, le début de cette lettre. Je lis à partir du verset 3, et je vais aller jusqu'au verset 11, et je lis dans la version du Semeur. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez pur et irréprochable au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Si vous êtes des habitués des écrits pauliniens, des autres lettres, quand on connaît l'intransigeance avec laquelle Paul reprend certains des chrétiens dans ses lettres, on lit avec délice l'expression de la joie et de la compassion que Paul évoque dans cette introduction à la lettre aux Philippiens. Il apparaît un réel attachement, au moins fraternel, si ce n'est presque paternel, de la part de l'apôtre à cette jeune église. Au verset 3, on a plusieurs marques d'affection dans ce texte et je vais vous les donner. Au verset 3, il dit qu'il a une reconnaissance à Dieu à chaque fois qu'il pense à eux. Verset 4, il prie pour eux avec joie en toute occasion. Au verset 7, il leur avoue qu'ils ont une place particulière dans son cœur. Et au verset 8, il les aime tous de l'affection que leur porte Jésus-Christ. Mais c'est quoi cette affection que leur porte Jésus-Christ? Et moi, je l'ai lu dans la Semeur, vous l'avez peut-être lu dans d'autres versions. Les traducteurs ne sont pas d'accord. Alors non pas qu'ils sont fondamentalement opposés, non. C'est que le terme qui est en grec est compliqué à redonner. En fonction de si on a une Bible qui est plus dynamique ou plus littérale, on va avoir une traduction plus ou moins proche. Le terme grec, je ne vous le donne pas parce que je vais mal le prononcer. Mais, par exemple, dans la Bible Second de 79, c'est traduit comme « Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». C'est beau, ça, la tendresse. Quand on revient encore plus loin dans le terme grec et qu'on essaie de voir un peu comment ce terme pourrait être utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament, une chose qui ressort, c'est qu'il y a une notion de sentiment. Qui apparaît derrière cette affection. Et les traductions les plus littérales qu'on ait, elles parlent même d'entrailles. Alors, les entrailles, aujourd'hui, si je vous dis que je vous aime avec toutes mes entrailles, il va falloir qu'on discute après, parce qu'il y a besoin d'explications. Mais à l'époque, en fait, dans la médecine ancienne, les entrailles, on pensait que c'était le cœur, le centre des humeurs, des émotions, que ça venait de là. Il y a une expression, encore aujourd'hui, qu'on utilise, c'est quand ça nous prend aux tripes. Quand c'est là que notre corps essaie d'exprimer aussi quelque chose. Étymologiquement, le mot « spleen », vous savez, cette mélancolie que Baudelaire a décrit, le « spleen », presque indicible, tellement c'est fort, c'est la même racine que le mot grec qui est utilisé dans notre texte au verset 8. Et ce terme-là, autant dans la médecine ancienne, effectivement, c'était utilisé pour, d'un point de vue négatif, les émotions, les humeurs, quelque chose de plutôt négatif, les juifs l'utiliser de manière, eux, positive. Et c'est ce que fait Paul dans notre texte. Voilà, ce verset 8, à quel point Paul veut dire que ça lui prend. C'est quelque chose qui vient de là. Paul, il est profondément heureux, donc. Non pas parce qu'il a un attachement avec un tel ou un tel dans l'Église, en tout cas, il ne le redonne pas comme ça, mais parce qu'au travers, je crois, du soutien que cette Église a manifesté à lui, soutien financier, il est heureux, car il comprend qu'ils ont la même passion, la même envie que lui d'annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, c'est beau comme objectif. C'est une mission qui est éternelle. Alors, elle n'a pas de fin, pas pour autant qu'il n'y a pas des petites réussites, même des grandes réussites quand quelqu'un se convertit, mais c'est de tout temps. Il faut que les générations s'enchaînent les unes derrière les autres. Et Paul est heureux de voir que l'Église qu'il a bâtie, qu'il a démarrée à un endroit, prend la suite et a la même envie de prolonger ça. Plus proche de nous, il y a quelques dizaines d'années, John et Sarah Perkins, alors peut-être que vous n'êtes pas nombreux à les avoir connus, mais John et Sarah Perkins étaient missionnaires ici en Auvergne, et même plus qu'ici en Auvergne, dans cette même église, à Clermont. Et après ça, ils ont souhaité implanter une église du côté de Saint-Flour. Sauf erreur de ma part, ça n'a pas tenu, ça n'a pas continué. Actuellement, dans la même région, alors il faut le voir au sens un peu large, mais dans la même région, ce sont Philippe et Chantal qui ont eu ce même cœur de bâtir une église dans ce désert là-bas. Et ils ont eu à cœur d'y annoncer l'Évangile. Et j'ai retrouvé un échange de mail qui a été émis par Philippe et qui dit « Chers amis, j'ai la joie de vous annoncer notre premier culte au pays de Lafayette ce dimanche à 10h ». Et dans les personnes qui ont répondu, il y a Sarah et il y a John Perkins. Et je vous donne leur réponse. Sarah d'abord. « Quelle bonne nouvelle, nous sommes dans la joie avec vous, que le Seigneur emmène les personnes qui doivent être parmi vous et qu'ils soient touchés par le message. Soyez assurés de nos prières, que notre grand Dieu vous bénisse abondamment. » Et John, dans un autre mail, « Merci Philippe pour cette bonne nouvelle, nous avons prié pour vous ce dimanche, nous continuons avec vous dans la joie du Seigneur. » Et ça depuis les États-Unis. Donc, Rome, Philippe, États-Unis, pays de Lafayette, on est un peu dans la même chose. Les kilomètres ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, à vol, il n'y avait pas l'avion à l'époque. On peut se dire qu'on est à peu près dans le même contexte. Ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'en tant que serviteurs de Christ, qu'en tant qu'acteurs de la transmission de l'Évangile, c'est une vraie joie que de recevoir une marque de soutien et d'encouragement de la part de ceux qui ont œuvré avant nous. Cela montre qu'on n'est pas seul, que ce n'est pas juste une intuition à un moment donné qui nous est tombée dessus et qui se dit « Ah, il faut absolument que… » C'est quelque chose qui se continue. On fait partie d'un mouvement qui est global, qui est mondial même, et qui est éternel. Quel beau projet. Et Paul, lui, il se réjouissait finalement de voir, à juste titre, que ces nouveaux chrétiens de Philippe avaient aussi ce profond désir de voir, loin de chez eux, c'est-à-dire à Rome, l'Évangile annoncé. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et nous? Alors vous allez me dire, oui, mais Nicolas, t'es gentil, mais il y a déjà pas mal à faire ici. Oui. De toute façon, annoncer Christ est une nécessité partout. Alors à la limite, si vous ne l'annoncez pas au Vatican, ok. Mais partout, il y en a besoin. La question n'est pas tant, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais est-ce qu'on vit concrètement l'amour de notre vie d'église? Il s'agit de ça, au fond. Et là, je ne parle pas simplement d'avoir plaisir à être ensemble. C'est un fait, c'est un des points de cet amour manifesté par notre union en Jésus-Christ, mais pas que. Moi, je parle de prendre conscience que nous œuvrons ensemble, chacun d'entre nous, ici, mais ailleurs, dans les autres églises, à une même et belle œuvre, celle de faire connaître Christ. je me dis qu'on est invité, chacun d'entre nous, à nous regarder et à voir le souci qu'on porte sur les autres. Peut-être rien que dans notre assemblée, avant même d'imaginer voir les choses en grand, à l'extérieur. Est-ce qu'on a du souci ? Du bon souci, hein, pas du souci qui bouffe, du bon souci. Pour ceux qui font l'accueil, par exemple, l'enseignement des enfants, le ménage, la louange. On peut avoir du souci pour le service dans lequel on sert, c'est sûr. Mais on peut aussi, du coup, peut-être se mettre des œillères sur le reste en supposant que ça doit bien tourner, que vu que personne n'a levé une grande pancarte « Help », c'est que ça doit aller. À quel moment on a eu ce biais cognitif qui avoue que, à la fois dans notre service, oui, bon, il y a quelques problèmes, mais que chez les autres, ça doit aller. Volontairement, peut-être qu'on se déresponsabilise des autres. On ne veut pas s'inquiéter outre mesure, parce que finalement, on a déjà assez à s'inquiéter pour nous-mêmes. Mais comprenez-moi bien, il n'est pas question ici de prendre une part supplémentaire d'inquiétude, mais seulement d'avoir ce souci fraternel pour les autres, d'avoir la volonté d'encourager, d'apporter des marques d'amour les uns aux autres. Il s'agit d'aimer, il s'agit de vouloir que chacun dans l'assemblée dans son service pour l'Église, puisse progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. L'amour que l'on a pour les uns pour les autres, prier pour chacun dans l'assemblée, prier pour que chaque disciple, dans son acte de serviteur, puisse porter du fruit. Ça, ce n'est pas la chasse gardée de quelques-uns qui ont été identifiés dans l'Assemblée. Parce que nous sommes tous bénéficiaires d'une même grâce, celle du sacrifice de Jésus-Christ. Je crois que nous sommes tous unis fraternellement les uns aux autres. Un même corps, localement et mondialement. Et du coup, sortons un peu de nos murs aussi. Avoir de l'amour pour l'Église globale. Les flambeaux, le sel, le feu, le GBU, l'aumônerie aux hôpitaux et aux prisons, la MIB, la pastorale clermontoise, l'Église ADDLF, l'Église ukrainienne, la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, les missionnaires de la Fédération, la Bège, et j'en ai peut-être oublié. Tout ça, ce sont des associations, des groupes, que notre Église soutient, a soutenu, en tout cas a à cœur. Je ne dis pas que vous devez cibler forcément là-dessus. Je dis juste qu'il y en a, il y en a, il y en a plein. Et tous ces groupes-là, ils ont en commun qu'ils ont la même volonté. Faire en sorte que l'Évangile soit annoncé, que l'Évangile progresse, que de nouvelles personnes arrivent à Christ. On est dans la même chose que cette lettre aux Philippiens. Est-ce qu'on prie pour elle, pour ces associations ? Et même avant de prier, est-ce qu'on a de l'amour pour elle ? Peut-être que ce n'est pas concret parce qu'on n'a pas, je ne sais pas, un représentant de la Bège ici tous les dimanches matins qui vient nous en parler au micro. Mais quand même, ces associations, ces œuvres sont là et elles font progresser l'Évangile. Réjouissons-nous du message biblique qui touche nos enfants au travers des flambeaux. Soyons reconnaissants de soutenir un ministère local d'aumôniers. Ayons à cœur l'œuvre des missionnaires, même s'ils le font à des milliers de kilomètres d'ici. Soyons heureux, profondément heureux, que l'Évangile puisse être donné en portugais et en ukrainien. la connaissance de Christ, source de l'amour. Jeudi soir, alors que je structurais le contenu de cette prédication, je suis allé me coucher avec ce sentiment qu'il manquait un truc. J'étais pas satisfait de cette prédication. J'aurais pu la faire et finalement on se serait arrêté là, voilà, à peu près. Je crois que si nous nous contentons de tirer de ce texte l'enseignement que, comme les Philippiens, que par amour nous soutenons la mission, nous resterions un peu en surface des choses. Paul, au verset 9, dit qu'il prie que l'amour des Philippiens grandisse encore. Cet amour dont il parle, c'est l'amour que les Philippiens ont déjà matérialisé dans le soutien financier qu'ils ont apporté à l'annonce de l'Évangile à Rome. Paul, il va se servir de ce constat, cet acquis finalement qu'il y a dans leur relation, comme d'un tremplin pour leur parler d'autre chose, pour leur souhaiter que leur amour grandisse encore. Ils ont compris que le plus important pour eux-mêmes, c'est le Christ. Et que par extension, le plus important pour les autres, c'est qu'ils connaissent Christ. Leur souhait dans le fait qu'ils soutiennent Paul et sa mission montre qu'ils veulent participer activement à la progression du royaume de Dieu. C'est la même chose qui se passe si vous soutenez une association comme par exemple le GBU ou le FEU qui œuvre parmi les étudiants. S'ils ont reconnu comme pour eux le plus important c'est de connaître Christ, alors ils veulent que ce soit d'eux-mêmes pour autrui. L'amour véritable, celui dont Paul nous dit simplement agapé, sans autre cible que cet amour dont il parle au verset 9, l'amour véritable pour l'autre ne s'arrête pas à simplement vouloir son bien-être. On ne se contente pas d'un salut, ça va. Il vise à lui faire connaître Christ toujours plus profondément. Les Philippiens, par la grâce de Dieu, eux, participent à l'œuvre globale de Dieu de rédemption. Eh bien, par la grâce de Dieu. C'est ce que dit Paul au verset 6 quand il pose un aspect assez fondamental de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Il dit en creux, le salut, la conversion, ce n'est pas un aboutissement. Vous êtes dans une église, vous êtes ensemble, c'est bien, mais ce n'est pas un aboutissement. Paul est persuadé qu'à la suite de la grâce du salut manifestée aux Philippiens, le Seigneur souhaite poursuivre son œuvre avec eux jusqu'à son retour. Alors, pas le retour de Paul, hein, le retour du Seigneur. Dieu offre donc le salut et continue d'être moteur dans les œuvres que l'Église fait. Cet amour manifesté par Jésus-Christ auprès des croyants philippiens est le moteur que des œuvres qu'ils font et qu'ils ont manifesté par la suite par ce don financier à Rome. Vivre l'Église globale, c'est aimer l'autre et le mettre avant soi-même. Ce véritable amour, il est profondément désintéressé. Comprenez bien que cet argent qui allait être envoyé à Rome, ils n'en reverraient pas la couleur. Il y a très peu de chances qu'un jour, tel chrétien de Philippe dise ouais, « je vais aller faire un voyage à Rome, je vais aller profiter de ce qu'on a investi là-bas ». Non. Ils cherchent avant tout à conduire les autres à Jésus-Christ sans rien attendre en retour. Cet amour qui grandit, en tout cas que Dieu fait grandir en nous, c'est un peu comme une plante. Alors, imaginons. Cette plante, prenez une plante dans un pot avec de la terre. La plante, c'est notre amour, cet amour agapé. Dieu, C'est celui qui vient arroser la plante. En réalité, arroser la terre afin que la plante puisse en profiter. Et nous ne sommes pas la plante, mais nous sommes la terre. Soit nous sommes une terre caillouteuse, et Dieu va arroser, mais l'eau va couler. La plante n'en profitera pas. Soit, au contraire, nous sommes une terre argileuse qui va retenir l'eau, qui va retenir ce que Dieu a donné. L'amour, la plante, elle, fera grandir ses racines en nous et puisera profondément l'eau et grandira. Ce que je veux dire par là, c'est que ne cherchons pas à améliorer notre amour pour les autres à force d'auto-persuasion. Il faut que je sois plus comme ça, et que je fasse ça, et que je fasse ça, et que je vais... Non. Laissons-nous arroser par Dieu. Soyons cette bonne terre. Paul lui dira dans cette même lettre aux Philippiens, un peu plus loin, c'est pas dans notre péricope, mais un peu plus loin, chapitre 3. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. L'amour que nous avons et la connaissance de Christ sont une même chose. Et en effet, si Christ est la source de l'amour, de cet amour que nous sommes capables maintenant de redonner autour de nous, le connaître plus profondément augmente notre amour. De même, qui peut dire connaître Christ seulement par l'intelligence mais sans l'aimer ? Son œuvre, son sacrifice à la croix est l'aboutissement même de l'amour de Dieu pour les hommes. Alors je vous le dis, celui qui croit connaître Christ sans l'aimer, en réalité ne le connaît pas. Notre amour pour Christ, notre connaissance profonde de Jésus devrait grandir ensemble et constamment. Cette connaissance, elle, et Paul le dit aux Philippiens, et peut-être ça nous paraît un peu abstrait parce que ça devient concret dans ce chapitre 3. Lisez-le en entier, ce livre. Mais notre connaissance nous permettra de discerner ce qui est important au quotidien. Et ce qui est important, c'est toujours la même chose. C'est de savoir, de connaître la personne et l'œuvre de Christ. Et si cela, je le reconnais comme bon pour moi, je le veux que ce soit le cas par amour pour les autres. Je veux les accompagner dans cette croissance. C'est comme si vous avez un paquet de gâteaux et vous dites « ils sont vachement bons, par contre je les garde pour moi ». Il y a mieux que ça à faire. L'amour véritable ne s'arrête pas au bien-être de l'autre, il vise à lui faire connaître Christ toujours plus profondément. Pour conclure, ce matin, nous avons finalement vu trois choses. Nous avons vu que aimer, c'est avoir un cœur pour ceux qui œuvrent aussi avec nous à l'annonce de l'Évangile. Nous avons vu que Dieu souhaite faire grandir en nous l'amour et la connaissance du Christ. Et finalement, nous avons vu que l'amour véritable ne s'arrête pas au bien-être de l'autre. Il vise à lui faire connaître Christ toujours plus profondément. Et c'est sur cette dernière phrase que je veux m'arrêter ce matin. Nous avons la chance de pouvoir vivre en Église tellement plus que de simples amitiés. Alors comme Paul le fait pour les Philippiens, je veux prier pour nous. Prions. Seigneur, nous le chantons et nous le savons, c'est un grand prix, un grand sacrifice que tu nous